Léon Tolstoï, feu qui flambe ne s'éteint plus. Il y avait à la campagne un paysan du nom d'Ivan Tcherbakov. Il vivait heureux. Il avait encore toutes ses forces et c'était le premier travailleur du village. De plus, il possédait trois fils qui l'aidaient, l'un marié, l'autre fiancé, le troisième un adolescent qui commençait déjà à labourer la terre. La vieille d'Ivan était une baba entendue et bonne ménagère, et la bru se trouva être aussi douce que laborieuse. Il n'y avait dans la maison de bouche inutile que le père malade, il était asthmatique et ne bougeait guère du poil. L'abondance régnait chez Ivan. On y voyait trois chevaux avec un poulain, une vache et son veau et 15 moutons. Les babas travaillaient dans leur chambre et cousaient elles-mêmes les chaussures et les habits des moudjiks. La huche contenait plus de pain qu'il n'en fallait pour attendre la nouvelle fournée. Son avoine suffisait pour payer tous les impôts et subvenir à tous les besoins du ménage. Ivan Tcherbakov n'avait qu'à se laisser vivre ainsi avec ses enfants. Malheureusement, près de sa maison, se trouvait la maison de son voisin Gavrilo, le boiteux, fils de Gordei Ivanov. La haine s'était mise entre eux. Du temps que le vieux Gordei vivait encore et que le père d'Ivan dirigeait son ménage, les moudjiks entretenaient des relations de bon voisinage. Fallait-il au baba un tamis ou un baquet, aux hommes une roue de rechange, on l'envoyait chercher d'une maison à l'autre et l'on se rendait mutuellement service en bon voisin. Si un petit veau courait sur l'air, on se contentait de le chasser en disant « Oh, laisse pas venir chez nous, car nos gerbes ne sont pas encore en meule !» Quant à le cacher ou l'enfermer dans l'air ou le hangar, c'est ce qui n'était jamais arrivé. C'était ainsi qu'il en allait au temps des vieux. Mais quand les jeunes leur succédèrent dans la conduite du ménage, tous autres devinrent leur rapport. Une futilité fut la cause de tout. La poule de la bru d'Ivan commença à pondre de bonne heure. La jeune femme recueillait les œufs pour la semaine sainte. Elle trouvait tous les jours un œuf sous le hangar, dans un caisson de charrette. Il arriva que la poule, effrayée sans doute par les enfants, vola par-dessus la haie chez le voisin et y pondit. La jeune femme entendit quadcader sa poule et pensa « Oh, j'ai pas le temps en ce moment, il faut que j'arrange l'isba pour la fête. Oh, j'irai tout à l'heure et je prendrai l'œuf. » Elle se rendit dans la soirée sous le hangar vers le caisson de la charrette. Pas d'œuf. Elle demanda à sa belle-mère, à son beau-frère, s'ils ne l'avaient pas pris. « Non, dirent-ils, nous ne l'avons pas pris. » Et Tarasca, le frère cadet, lui dit ben, « Ta poule a pondu dans la cour du voisin, c'est là qu'elle a quadcadé, c'est de là qu'elle est revenue. » La jeune femme regarda sa poule et la vit à côté de son coq, les yeux à moitié clos, sur le point de s'endormir. Elle lui demanderait bien où elle a pondu, mais la poule ne répondrait pas. Et elle alla, la jeune femme, chez sa voisine. La vieille vint à sa rencontre. « Que te faut-il, ma fille ?»« Mais voilà, dit-elle, ma petite grand-mère, ma poule a volé chez vous aujourd'hui. N'aurait-elle point pondu chez vous un œuf ?»« Nous n'avons rien vu, non, nous avons la nôtre, Dieu merci, elle pond depuis longtemps. Nous avons ramassé nos œufs. Ceux d'autrui, nous n'en avons que faire. Nous autres, ma fille, nous n'allons pas dans la cour des voisins pour ramasser des œufs. » La jeune femme se sentit offensée. Elle dit un mot de trop, la voisine d'eux et les deux babas se prirent de bec. Cependant, la femme d'Ivan, partie pour aller à l'eau, se mêlait à la dispute. Alors la femme de Gavrilo sortit aussi et se mit à accabler sa voisine des reproches lui jetant à la tête et ce qui était arrivé et ce qui n'était pas arrivé. Et la querelle reprit de plus belle. Tous criaient en même temps et s'efforçaient de dire deux paroles à la fois, et autant de mots, autant d'injures. Et tu es ceci, et tu es cela, et tu es une voleuse, et tu es une traînée, et ton beau-père le vieillard, tu le fais crever de faim et tu le laisses nu. Et toi, t'es une chipeuse, tu m'as pris mon tamis et t'as vendu, et tu m'as gardé chez vous la palanche, allez, rends-la-moi. On empoigne la palanche, on renverse l'eau, on fait voler les bonnets, on se crêpe le chignon. Gavrilo, qui revenait des champs, prit la défense de sa baba. Ce que voyant, Ivan sortit avec son fils et se jeta dans la mêlée. Ivan était un robuste gaillard. Il bouscula tout le monde et arracha à Gavrilo une poignée de barbe. La foule accourut et, à grand-peine, on sépara les combattants. Et ce fut de là que vint la brouille. Gavrilo ramassa les poils de sa barbe, les mit dans du papier et alla demander justice par devant le tribunal du bailliage. « Moi, disait-il, je n'ai pas cultivé ma barbe pour que ce grêlé d'Ivan vienne me l'arracher. » Et sa femme racontait à qui voulait l'entendre qu'on allait juger Ivan et l'envoyer en Sibérie. Et leur haine s'envenima de plus en plus. Dès la première heure, le vieux avait poussé à la conciliation, mais les jeunes ne l'écoutaient guère. « C'est une sottise, leur disait-il, c'est une sottise que vous faites là. D'une taupinière, vous faites une montagne. Mais réfléchissez un moment. Tout ce bruit pour un œuf. Les enfants ont ramassé un œuf, ben grand bien leur fasse. Dans un œuf, il n'y a pas grand-chose. Dieu en a pour tout le monde. Et puis la vieille a prononcé une mauvaise parole. Bon, corrige-la. Apprends-lui à mieux parler. Ah, vous vous êtes battu. À qui cela n'arrive-t-il pas? Allons, faites la paix. Et que tout soit dit. Si vous voulez vous entêter à vous faire du mal, c'est vous qui en pâtirez. » Mais les jeunes n'ont pas écouté le vieillard. Ce qu'il leur disait, pensait-il, ce n'était point sagesse, mais radotage de vieux. Ivan refusa de faire la paix. « Moi, disait-il, je ne lui ai point arraché la barbe. C'est lui-même qui, poil à poil, se l'est tiré. Tandis que son fils m'a déchiré toute la chemise, regardez. » Et il s'en alla comparaître en justice. Au cours du procès, la cheville de la charrette disparut de chez Gavrilo. À ce propos, sa baba prononça le nom du fils d'Ivan. « Nous l'avons vu, dit-elle, pendant la nuit, passer devant la fenêtre et s'approcher de la charrette. Et ma commère m'a raconté qu'il est allé au cabaret offrir la cheville au cabaretier. » On retourna en justice et de maison à maison, tous les jours, c'était des disputes et des batailles. Les enfants se répétaient les injures de leurs aînés et les babas, se rencontrant près du ruisseau, faisaient aller leur battoir moins que leur langue et toujours pour de gros mots. Tout d'abord, les deux moudjiks s'étaient bornés à se calomnier l'un l'autre. Finalement, ils en vinrent à faire main basse sur tout ce qu'ils voyaient traîner et ils poussèrent leurs babas et leurs enfants à agir de même. Et tout alla de mal en pis. Ivan Tcherbakov et Gavrilo le Boiteux demandèrent justice au Skolki, au tribunal du bailliage, au juge de paix. Ils eurent bientôt fatigué tous les juges. Tantôt c'était Gavrilo qui cherchait à faire mettre Ivan à l'amende, tantôt Ivan qui eut bien voulu faire enfermer Gavrilo au violon. Et plus ils se nuisaient, plus ils se haïssaient. Tels deux chiens qui s'entreprennent, puis ils se battent, puis ils enragent. Frappés l'un des deux par derrière, ils croient que l'autre l'a mordu, et sa fureur s'en accroît. Tels les deux moudjiks. Ils vont au tribunal, on les punit tour à tour de l'amende ou de la prison, et à chaque fois, ils se montent de plus en plus l'un contre l'autre. Attends donc, tu me le paieras. Les choses se traînèrent de la sorte pendant 6 ans. Le vieillard était toujours le seul qui, sur son poil, répétait son ancienne par la raison. Mais que faites-vous, enfant? Me laissez donc toutes ces histoires. Vous n'entendez rien à vos intérêts. Ne soyez pas si acharné contre votre prochain, cela ne vaudra que mieux. Plus vous vous acharnerez, plus vous pâtirez. Mais personne ne prêtait l'oreille au discours du vieillard. La 6e année vit surgir une nouvelle querelle. Un jour, à un mariage, la bru d'Ivan se mit à faire honte à Gavrilo devant tout le monde, en lui criant qu'on l'avait rencontré avec des chevaux qui n'étaient pas à lui. Gavrilo était ivre, il ne put se contenir. Il frappa la babba, il la frappa de telle sorte que pendant 8 jours, elle dut garder le lit. Et elle était alors enceinte. Ivan s'en réjouit. Il s'en alla avec une requête chez le juge d'instruction. À présent, pensait-il, me voici débarrassé de mon voisin. On ira sûrement en Sibérie. Mais il fut de nouveau déçu. Le juge d'instruction n'admit pas sa requête. On était venu examiner la baba, elle s'était levée, pas de marque. Ivan courut alors chez le juge de paix qui l'envoya devant le tribunal du bailliage. Là, il se remua si bien, donnant au pissar et au starchina un demi-seau de vodka douce, qu'il parvint à faire condamner Gavrilo aux verges. Le pissar lut le jugement à Gavrilo. Le tribunal ordonne que le paysan Gavrilo Gordeyev sera puni de 20 coups de verge dans le dos. Ivan écoutait aussi. Il regarda Gavrilo. Qu'allait-il faire maintenant? Gavrilo prêta l'oreille. Après avoir entendu la lecture, il devint blanc comme une serviette et sortit dans le vestibule. Ivan le suivit. Comme il se dirigeait vers ses chevaux, il entendit Gavrilo qui disait « C'est bien, tu vas fouetter mon dos et mon dos s'échauffera. Mais prends garde qu'il se chauffe pour toi quelque chose de pire. » D'ailleurs, oui, ces paroles, Ivan retourna aussitôt auprès du juge. « Juge équitable, dit-il, il me menace de l'incendie. Écoutez ce qu'il a dit devant témoin. » Gavrilo fut appelé. « Est-il vrai que tu aies dit cela ?»« Je n'ai rien dit. Fouettez-moi puisque vous m'y avez condamné. Je vois que je dois seul souffrir pour la vérité. Tandis que lui, tout lui est permis. » Gavrilo voulut continuer, mais ses lèvres et ses joues se mirent à trembler, et il se détourna vers le mur. Le juge lui-même prit peur en le regardant. « Ah, pourvu, pensait-il, qu'il ne mérite pas un mauvais coup contre son voisin ou contre lui-même. » Et le petit vieux juge leur dit à tous deux, « Voilà, mes frères, et réconciliez-vous, cela vaudra mieux. » « Toi, frère Gavrilo, n'es-tu pas honteux d'avoir frappé une baba enceinte? C'est bien que Dieu l'ait préservée, mais autrement, de quel péché tu aurais chargé ta conscience? Est-ce bien? Est-ce donc bien? Mais reconnais ta faute devant lui. Salue-le, et il te pardonnera. Et nous réformerons notre jugement. » Le pissard, entendant cela, prit la parole. « Ah, cela ne se peut pas, car la conciliation à l'amiable, prévue par l'article 117, ne s'est pas produite. Il y a maintenant chose jugée et le jugement est exécutoire. » Mais le juge ne l'écouta pas. Ah, c'est remuer ta langue, dit-il. Le premier article, frère, est celui-ci. Il faut avant tout obéir à Dieu, et Dieu a ordonné de se réconcilier. Et il se mit de nouveau à parler raison au Moudjik, mais il y perdit sa peine. Gavrilo se montra intraitable. Moi, disait-il, j'ai déjà un demi-siècle, moins un an. J'ai un fils marié, et j'ai jamais frappé personne. Et voici qu'aujourd'hui, ce grêle divan me fait condamner aux verges. Et ce serait moi qui irais lui demander pardon. Oh, eh bien, c'est assez. Ivan se souviendra de moi. De nouveau, sa voix trembla, il ne put en dire davantage. Il se détourna et sortit. Du tribunal jusqu'au logis, la distance était de 10 verstes. Il était tard lorsqu'Ivan fut rendu chez lui. Déjà, les babas étaient allés chercher le bétail. Il détela son chevalet, entra dans l'isba. Personne. Les fils n'étaient pas revenus des champs et les babas étaient encore au bétail. Ivan s'assit sur le banc et se prit à songer. Il se rappela la pâleur de Gavrilo à la lecture du jugement, comment il s'était détourné vers le mur. Son cœur se serra. Il fit un retour sur lui-même. Si c'était lui, Ivan, qu'on avait condamné aux verges. Et il se sentit de la pitié pour Gavrilo. Il entendit tout à coup le vieux qui toussait, et il se remuait, puis, laissant pendre ses pieds, descendait du poêle. Le vieillard descendit et se traîna jusqu'au banc où il s'assit. Cet effort l'avait fatigué. Après avoir encore toussé, il s'accouda sur la table et dit « Eh bien, le jugement est-il rendu ?» Et Ivan lui répondit « Oui, on l'a condamné à recevoir 20 coups de verge. » Le vieux hocha la tête. « C'est mal, dit-il, ce que tu fais là. Oh, que c'est mal. C'est pas à lui, c'est à toi que tu fais du mal. Un survin lui fouettait le dos. Alors tu t'en trouveras mieux, toi, dit. Ben, il ne le fera plus, répondit Ivan. Qu'est-ce qu'il ne fera plus ? En quoi a-t-il plus mal agi que toi ? Ivan s'emporta. Mais comment ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Dit-il. Mais il a failli tuer la baba, et à présent il m'a menacé de l'incendie. Faut-il encore m'incliner devant lui ? Le vieillard soupira et dit. Parce que tu marches, Ivan, dans le monde entier, et que je reste, moi, là, voilà combien d'années déjà, accroupi sur le poêle. Tu t'imagines voir tout et moi rien. Non, mon fils, tu ne vois rien. La colère t'aveugle. Les péchés des autres sont devant toi, mais les tiens derrière toi. Qu'as-tu dit ? Il a fait du mal. S'il était seul à faire le mal, il n'y aurait pas de mal. Est-ce que le mal vient jamais d'un seul ? Non, c'est toujours de deux qu'il vient. Tu vois ses méfaits et tu vois pas les tiens. S'il n'y avait que lui de méchant et que tu fusses bon, il n'y aurait pas de mal. Qui donc lui a arraché la barbe ? La meule, qui donc l'a emportée ? Qui donc l'a traîné de tribunal en tribunal ? Tu le charges de tout, sans vivre toi-même mieux que lui. Et voilà d'où vient le mal. Ce n'est pas ainsi, mon fils, que j'ai vécu. Ce n'est pas cela que je vous ai appris. Vivions-nous ainsi, nous autres, son père et moi ? Comment vivions-nous, mon bon voisin ? Il n'avait plus de farine, la baba venait. Oncle Frotte, il me faut de la farine. Va, ma fille, sous le hangar, prendre ce dont tu as besoin. Il n'avait personne à qui confier ses chevaux. Va, Yvonne, charge-toi de ses chevaux. Si je manquais, moi, de quelque chose, j'allais chez lui. Oncle Gordet, il me faut ceci ou cela. Prends, oncle Frôle. C'était ainsi que nous en usions entre nous, et nous nous en trouvions bien. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Un soldat nous parlait naguère de Plévenard. Votre guerre à vous n'est-elle pas pire que celle de Plévenard? Est-ce donc une vie, cela, et quel péché? Toi, Boudjik, tu es le chef du ménage, c'est toi qui réponds de tout. Or, qu'apprends-tu à tes babas, à tes enfants, à vivre en chien? Hier, Taraska, ce petit morveux, n'a-t-il pas injurié sa tante Arina? Ne s'hérite-t-il pas de sa mère? Est-ce bien cela? Est-ce donc bien? Mais tu seras le premier à en souffrir. Songe donc un peu à ton âme. Est-ce ainsi qu'il faut agir? Tu me dis une injure, moi je t'en dis deux. Tu me donnes un soufflet, moi je t'en donne deux. Non, mon cher, notre Seigneur, lorsqu'il est descendu sur la terre, ne nous a pas appris cela, nous autres pauvres sots. Qui te dit une mauvaise parole, lui répond pas, et il en rougira lui-même. Tels sont les enseignements de notre Seigneur. Quelqu'un te donne un soufflet, tu tends l'autre joue. Frappe-moi si je le mérite, et il en sera honteux. Il se repentira et se rangera à ton avis. Voilà ce qu'il nous a ordonné, et non pas d'être orgueilleux. Eh bien, pourquoi gardes-tu le silence? N'est-ce pas la vérité? Ivan se taisait, prêtant l'oreille. Le vieillard fut pris d'une canne si violente qu'il eut peine à revenir à lui. Puis il reprit. « Penses-tu que Jésus-Christ est venu pour nous apprendre le mal? Non! C'est toujours pour nous faire du bien. Examine quelle vie est la tienne. Te sens-tu mieux ou pire depuis cette plèvena? Compte un peu combien tu as dépensé en frais de procédure, de voyage, de nourriture. Tu as des fils, de vrais aiglons. Tu n'aurais qu'à vivre et vivre, toujours t'arrondissant, tandis que ton bien commence à décroître. Et pourquoi? Mais toujours pour la même cause, ton orgueil. Il te faudrait aller avec tes enfants dans les champs, semer le blé, et te voilà obligé de courir, ou chez un juge, ou chez un agent d'affaires, et tu ne laboures pas au bon moment. Tu ne sèmes pas en temps utile. Elle ne donne rien pour rien, notre mère nourricière. L'avoine, pourquoi n'est-elle pas venue? Quand l'as-tu semé? Seulement à ton retour de la ville. Et qu'as-tu gagné? Un souci de plus sur ton échine. Eh, mon cher, ne t'occupe que de tes affaires. Remue la terre avec tes enfants, reste chez toi. Si quelqu'un t'offense, pardonne-lui. Tu auras alors tout le temps de vaquer à ta besogne et te sentiras aussi l'âme plus légère. Ivan restait toujours silencieux. Voilà ce que j'avais à te dire, Ivan. Croisons un vieillard, allez, va donc, attelle ton cheval. Retourne par la même route au tribunal. Retire toutes tes plaintes, puis va demander chez Gavrilo. Faire la paix avec lui, l'inviter chez toi. Demain est justement un jour de fête. C'était la veille de la nativité de la Vierge. « Apprête ton samovar, achète de la vodka, mets un terme à tous ces péchés, qu'il n'en soit plus jamais question. Donne tes ordres aux babas et aux enfants. » Ivan poussa un soupir. « C'est vrai, pensait-il, ce que dit le vieillard. » Et il se sentait ébranlé. Seulement, il ne savait comment s'y prendre pour faire la paix. Comme s'il eût deviné les paroles de ses pensées de son fils, le vieillard, reprenant la parole, lui dit « Va, Ivan, ne tarde pas, éteins le feu à son début. Une fois allumé, tu n'en serais plus maître. » Le vieillard avait encore à dire, mais il ne put achever. Les babas entraient dans l'isba et se mettaient à caqueter comme des pies. Elles savaient déjà la condamnation de Gavrilo et ses menaces d'incendie. Elles avaient même trouvé le temps de se chamailler dans les champs avec les babas de Gavrilo. Elles racontèrent comment ces dernières les avaient menacées d'un membre du tribunal, un juge qui, paraissait-il, protégeait Gavrilo. Il allait maintenant changer la face du procès, et le maître d'école avait déjà rédigé une supplique au tsar en personne. Dans cette supplique, tout se trouvait détaillé, et la cheville, et un certain carré de légumes, et le reste. La moitié des biens d'Ivan allait revenir à Gavrilo. Ivan les écoutait, et son cœur se glaçait de nouveau. Il ne voulait plus faire la paix. Chez un boudjik à son aise, il y a toujours quelque chose à faire. Sans s'arrêter à bavarder avec les babas, il se leva, sortit de l'isba et s'en alla dans l'air et sous le hangar. Pendant qu'il y faisait sa besogne, le soleil avait eu le temps de se coucher et les enfants étaient eux aussi revenus des champs où ils avaient labouré la terre pour y semer les blés d'hiver. Ivan vint au-devant d'eux, les questionna sur leur travail et les aida à tout arranger. Il mit de côté pour leur accommoder un harnais déchiré. Il voulait même rentrer les perches, mais il commençait à faire nuit. Il laissa donc les perches là jusqu'au lendemain matin, fit manger les bêtes, ouvrit la porte cochère pour laisser passer Taraska, qui allait partir pour la nuit avec les chevaux. « Ben, il ne reste plus qu'à souper et à se coucher, » pensa Ivan. Il prit le harnais déchiré et se dirigea vers l'isba. Il avait oublié Gavrilo et ce que lui avait dit son père. Il avait déjà saisi l'anneau et pénétré dans le vestibule lorsqu'il entendit derrière la haie son voisin qui injuriait quelqu'un de sa voix enrouée. « Oh, que diable !» criait Gavrilo. « Il méritait d'être tué !» Ivan s'arrêta, tendit l'oreille, hocha la tête et rentra dans l'isba. Il rentra dans l'isba. Le feu était déjà allumé. La jeune femme était dans le coin à son rouet. La vieille apprêtait le repas. Le fils aîné faisait des laptis. Le second tenait un livre à la main et Taraska se préparait à partir pour la nuit. Tout serait bel et bien dans l'isba, était ce gueux de voisin. Ivan était de mauvaise humeur. Il chassa le chat du banc et gronda les babas de ce que le baquet n'était pas à sa place. Ennuyé, maussade, il s'assit et se mit à raccommoder le harnais. Les paroles de Gavrilo ne lui sortaient pas de la tête, ses menaces au tribunal. Et aussi les mots qu'il venait de prononcer tout à l'heure, il mériterait qu'on le tue. La vieille prépara le souper de Taraska, qui mangea, passa sa petite chouba et son caftan, se ceintura, prit un morceau de pain et s'en alla dans la rue retrouver ses chevaux. Son frère aîné voulait l'accompagner, mais Ivan se leva lui-même et sortit sur le perron. L'obscurité était maintenant complète au dehors. Des nuages couvraient le ciel. Le vent se mit à souffler. Ivan descendit le perron, aida son fils à enfourcher les chevaux, excita les poulains, s'arrêta, regarda et écouta. Taraska s'éloignait au galop, rejoignaient d'autres moudjiks de son âge et tous sortaient du village. Ivan resta assis pendant quelque temps auprès de la porte cochère et il ne pouvait s'empêcher de ressasser les paroles de Gavrilo. « Prends garde qu'il ne se chauffe pour toi quelque chose de pire. »« Mais il est homme à ne pas reculer, » pensait-il. « Il fait si sec maintenant, et voici le vent qui s'en mêle. »« Il peut se faufiler quelque part en cachette, mettre le feu par derrière, et après, cherche-le. »« Il allumera le brigand, je ne pourrai pas le convaincre. »« Ah, si je le prenais sur le fait !» Il ne s'en tirerait pas comme cela. Et cette crainte s'ancrait si profondément dans sa tête qu'au lieu de retourner au perron, il franchit la porte cochère, gagna la rue et tourna le coin de sa maison. Oh, je vais aller par là jusqu'à ma cour. Qui sait, il faut rien négliger. Et Ivan marcha d'un pas régulier en longeant le mur. Le coin tourné, il regarda le long de la haie, et il lui sembla qu'à l'autre coin, quelque chose avait remué, quelque chose d'apparu à un moment de derrière le mur. Ivan s'arrêta et retint sa respiration. Il écoute, il regarde, tout est tranquille. Rien que le vent qui agite les petites feuilles des saules et siffle dans le chaume. Il fait noir à rendre inutiles les yeux, mais sa vue finit par s'habituer à cette obscurité, et Ivan distingue tout le coin et la charrue qui se trouve là et l'avant-toit de l'isba. Il demeure ainsi quelques instants, regarde et ne voit personne. « Bon, j'aurais mal vu, » se dit Ivan, « mais je vais tout de même faire mon tour. » Et il s'avance à tâtons en longeant extérieurement le hangar. Il marche sans faire de bruit avec ses laptis. À peine entend-il ses propres pas. Il marche. Tout à coup, il voit à l'autre coin quelque chose étincelait auprès de la charrue, puis disparaître. Ce fut comme un coup dans son cœur. Il s'arrêta, et alors, à la même place, quelque chose étincela avec une clarté plus vive. Et l'on voyait distinctement un homme accroupi, avec un bonnet, allumant une botte de paille. Le cœur d'Ivan tressauta dans sa poitrine comme un oiseau. Il ramassa ses forces et se mit à courir à grandes enjambées la distance qui le séparait de l'homme. Il ne sentait pas la terre sous ses pieds. « Eh bien, pensait-il, je te prends sur le fait. » Il avait à peine fait quelques pas qu'un grand feu s'allumait, mais non plus à la place où avaient brûlé les étincelles. C'était la paille de l'avant-toit qui flambait et la flamme se rabattait sur le toit. Gavrilo était là, on le voyait tout entier. Comme un milan qui fond sur une alouette, Ivan se jeta sur le boiteux. « Je vais le lier, » se dit-il, « il ne m'échappera plus. » Mais le boiteux entendit sans doute les pas. Il se retourna et... D'où lui vint cette légèreté, il se mit à sautiller comme un lièvre le long du hangar. « Tu m'échapperas pas !» s'écria Ivan en se lançant à sa poursuite. Déjà, il allait le saisir au collet, mais Gavrila lui glissa des mains et prit Ivan par le pan de son habit. Le pan se déchira et Ivan tomba. Ivan se leva vivement et se mit à crier « « au secours, arrêtez-le !» Et il continua sa poursuite. Pendant qu'il se relevait, Gavrilo était arrivé près de sa cour. Mais Ivan le rejoignit. Il était enfin sur le point de le saisir, quand soudain quelque chose l'étourdit comme si une pierre l'eût atteint à la tête. C'était Gavrilo qui, près de sa maison, avait soulevé une barre en bois de chêne, et au moment où son adversaire courait à lui, il lui en avait asséné un coup sur la tête à toute volée. Le coup l'assomma. Il en vit 36 chandelles, puis tout s'obscurcit et il chancela. Quand il revint à lui, Gavrilo n'était plus là. Il faisait clair comme en plein jour, et du côté de sa cour, quelque chose crépitait et fusait comme une machine. Ivan se retourna. Son hangar de derrière était tout en feu. Le hangar latéral s'enflammait déjà, et sur l'isba, dans la fumée, tombaient des flamèches et des pailles allumées. « Mais que faites-vous donc, frère ?» s'écria Ivan. Il leva les mains et les laissa tomber sur ses cuisses. « Mais j'avais qu'à retirer de l'avant-toi la botte de paille et à l'éteindre, pensait-il. » Il voulut crier, mais le souffle lui manqua. Il ne put proférer une parole. Il voulut courir, mais ses jambes s'accrochant l'une à l'autre refusèrent de lui obéir. Il se traîna lentement, fit deux pas, chancela, et le souffle lui manqua de nouveau. Il s'arrêta, reprit ses sens et recommença à marcher. Avant qu'il eût pu contourner tout le hangar du fond et se rapprocher du foyer de l'incendie, le hangar latéral était entièrement embrasé à son tour. Un coin de la maison brûlait aussi, ainsi que la porte cochère. Et de l'isba jaillissait haut la flamme. On ne pouvait plus entrer dans la cour. Une foule accourut, mais impossible de lutter. Les voisins emportaient leur mobilier et emmenaient le bétail. De la cour d'Ivan, l'incendie gagna celle de Gavrilo. Le vent redoubla, la flamme franchit la rue. La moitié du village fut enlevée comme avec un balai. De l'isba d'Ivan, on ne retira que le vieillard. Les siens se sauvèrent comme ils étaient. À part les chevaux, sortis pour la nuit, on dut tout abandonner. Le bétail fut brûlé, les poules flambèrent dans leurs poulaillers, les charrettes, les charrues, la herse, les coffres, les babas, les blés sous les hangars, tout fut consumé. Jai Gavrilo réussit à sortir le bétail et à sauver une partie de l'avoir. L'incendie dura toute la nuit. Qu'est-ce donc, frère, il n'y avait qu'à retirer la paille, à l'éteindre. Mais quand le plancher de son isba s'écroula, il entra au plus fort du feu, saisit une poutre embrasée et la retira. Les babas, l'ayant aperçu, l'appelaient à grands cris. Mais il retira sa poutre et revint en chercher une autre. Il chancela et tomba dans le feu. Son fils se jeta à son secours et le tira du brasier. Ivan avait sa barbe, ses cheveux, ses mains et ses vêtements brûlés. Mais il ne s'en apercevait pas. Mais c'est le chagrin qui l'affole, disait-on dans la foule. L'incendie commençait à s'apaiser. Ivan était toujours au même endroit, répétant toujours « Frère, mais qu'est-ce donc ? Il n'y avait qu'à retirer la paille !» Vers le matin, le starost envoya son fils chercher Ivan. « Oncle Ivan, ton père se meurt et il te demande. » Ivan avait oublié son père. Il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Mais quel père, qui demande-t-on ? Faisait-il. Mais il te demande, il se meurt dans notre isba. Viens, oncle Ivan. À grand-peine, Ivan finit par comprendre et suivit le fils du starost. Pendant qu'on retirait le vieillard, des pailles enflammées étaient tombées sur lui et il avait reçu de graves brûlures. On l'avait emporté chez le Starost dans un faubourg assez éloigné que le fléau avait épargné. Lorsque Ivan arriva, il ne se trouvait dans l'isba que la vieille femme du Starost avec les enfants assis sur le poêle. Tous les autres avaient couru au feu. Le vieillard était étendu sur un banc, une bougie à la main, les yeux tournés vers la porte. Quand Ivan entra, son père fit un mouvement. La vieille s'approcha et lui annonça que son fils était là. « Dis-lui de venir plus près de moi, » fit le vieillard. Et quand Ivan se fut placé tout près de lui, il lui dit « Eh bien, Ivan, que te disais-je? Qui donc a incendié le village ?»« Mais c'est lui, mon petit père, » répondit Ivan. « C'est lui, je l'ai pris sur le fait. C'est sous mes yeux qu'il a mis le feu au toit. Je n'avais qu'à retirer la paille enflammée et à l'éteindre sous mes pieds, rien ne serait arrivé. » « Ivan, » dit le vieillard, « je vais mourir et tu mourras aussi. Qui a péché ?» Ivan regardait son père et gardait le silence. Il ne pouvait dire un seul mot. « Dis-le devant Dieu, qui a péché ? Que t'avais-je dit ?» Alors seulement Ivan revint à lui. Il comprit. Sa respiration se précipita, il tomba à genoux devant son père, fondit en larmes et dit « C'est moi qui ai péché, mon petit père, pardonne-moi, je suis coupable devant toi et devant Dieu. » Le vieillard agita ses mains, il prit la bougie dans sa main gauche, souleva la droite vers le front d'Ivan et voulut lui faire le signe de la croix, mais il ne put y arriver. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, dit-il en regardant de nouveau son fils. Ivan, hé, Ivan, quoi, mon petit père, qu'allons-nous devenir maintenant? Ivan pleurait toujours. « Je ne sais pas, mon petit père, comment nous allons vivre à présent. » Le vieillard ferma les yeux et remua les lèvres. Puis, réunissant ses dernières forces, il ouvrit les yeux et murmura « Vous vivrez, si vous êtes juste, vous vivrez. » Le vieillard se tut, puis il sourit et reprit « Écoute, Ivan, ne révèle pas qui a allumé l'incendie. Cache le péché d'autrui, Dieu t'en remettra deux. » Et le vieillard, prenant la bougie dans ses douze mains, les joignit sur son cœur, laissa échapper un soupir, se raidit et mourut. Ivan ne dénonça point Gavrilo et personne ne sut d'où venait l'incendie. Et le cœur d'Ivan n'était plus aigri contre Gavrilo. Et Gavrilo s'étonnait qu'Ivan ne le dénonçât point. Il avait peur d'abord, puis il se rassura. Les Moujiks ne se querellaient plus, les leurs pas davantage. Tandis qu'on reconstituait les maisons, les deux familles demeurèrent côte à côte dans le même cours. Et Ivan, avec Gavrilo, se retrouvèrent voisins dans le même nid. Et ils vécurent tous les deux comme de bons voisins, ainsi qu'avaient fait leurs anciens. Et ils se rappelaient Ivan Shcherbakov. Ils se rappelaient sans cesse les dernières paroles du vieillard et cet enseignement de Dieu qu'il faut éteindre le feu à son début. Et si quelqu'un te fait du mal, n'en tire point vengeance, mais tâche d'arranger les choses Et si quelqu'un te dit une mauvaise parole, ne riposte pas par une pire, mais au contraire, abstiens-toi des mauvaises paroles. Apprends à tes babas, à tes enfants, à s'en abstenir ainsi. Et Ivan Chtcherbakov se trouva bien de suivre ses préceptes et vécut mieux qu'auparavant.